Bonjour à tous. Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons directement aller dans la parole de Dieu. Nous allons lire trois textes. Premièrement, dans 1 Pierre 1:23. On va lire à partir du verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour... Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Un autre texte, 2 Timothée 3:16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et puis 1 Timothée 4:16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Je vais vous asseoir. Hier, j'étais seul dans mon bureau et je pensais à ce qu'ont été mes 41 années de vie chrétienne. 41 ans avec Jésus, j'étais en train de charger toutes les photos que j'ai faites de Violette et Raphaël, que nous avons eu le privilège d'avoir parmi nous la semaine passée. Et je les regardais et je pensais, voilà, ça fait déjà 41 ans que j'ai rencontré cet homme de Dieu qui m'a prêché la parole de Dieu. Et voilà donc 41 ans maintenant que je me suis décidé à suivre Jésus-Christ, à vivre la vie chrétienne. Et je peux dire que, quoi qu'il me soit arrivé, et il m'en est arrivé des choses en 41 ans, eh bien je n'ai jamais cessé d'aimer Dieu. Ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'il a su se prouver à moi. En fait, si je le sers aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il m'a guéri. Vous vous rappelez que j'avais été très gravement malade. En 69, j'avais la gangrène au pied gauche, on devait m'amputer. Mais Jésus m'a guéri miraculeusement lors d'une convention de Zigane à Metz. C'était le pasteur Vikram Seth qui avait prié dans la langue de l'esprit. J'ai été guéri instantanément. Ce n'est pas parce qu'il m'a guéri que je le sers, mais c'est parce qu'il a sauvé mon âme. Amen. C'est parce qu'il a sauvé mon âme, parce que je l'aime. Voilà pourquoi je le sers. Et parce que j'aime aussi le genre de vie dans laquelle il m'a fait entrer. Vous savez, Jésus n'est pas seulement mon sauveur, il est aussi mon exemple à atteindre dans ma vie. Et depuis 41 ans, je m'efforce de faire comme il fait, de suivre ses pas. Alors évidemment, je n'ai pas encore atteint le but, mais je cours vers ce but. On en est tous là, mes frères et sœurs, on en est tous là. Et ce matin, je voudrais vous dire, soyez résolus à vivre une vraie vie de disciple de Jésus-Christ, quoi qu'il puisse vous arriver. Quoi qu'il puisse vous arriver. Et puis ensuite, après avoir pris cette résolution que vous pouvez renouveler aujourd'hui, eh bien, le second conseil que je peux vous donner, c'est cultivez votre foi. Cultivez votre foi. La foi, c'est comme une plante rare, c'est comme une plante précieuse. Il faut la cultiver. Ce n'est pas quelque chose qu'on a acquis un jour et puis pouf, 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 on l'a et voilà. Pas du tout. Ta foi, elle se fortifie quand tu l'exerces. C'est comme un muscle. Benjamin m'a dit qu'il fait des pompes. Il ne fait pas des pompes parce que c'est amusant, il fait des pompes parce qu'il veut fortifier ses muscles. Et bien, c'est la même chose pour notre foi, c'est en l'exerçant dans les diverses difficultés que nous pouvons trouver. Oui ou non? C'est sûr. Une des lois de la vie, mes frères et sœurs, c'est que tout ce qui vit se reproduit selon son espèce. La vérité engendre la vérité, le mensonge engendre le mensonge, la foi engendre la foi, la crainte engendre la crainte, et la bêtise engendre la bêtise. Etc., etc., etc. À mesure que ta foi s'accroîtra, alors la puissance de Dieu dans ta vie s'accroîtra. La puissance de Dieu dans ta vie, non seulement tu vas en bénéficier, mais tu vas en faire bénéficier aussi tous les autres. Alors, cherche à vivre en harmonie avec des gens qui sont animés d'une foi vivante et forte, Cesse de t'entourer de niaiseries, de gens stupides, de gens négatifs. Ça, ils pullulent. Ça pullule, ça. Ça pullule. Ferme la porte à tout ça. C'est pas qu'on ne les aime pas, mais c'est qu'ils nous détruisent. Ils nous influencent, ils nous souillent, ils nous salissent. Ils nous détruisent avec leurs pensées négatives et avec leurs mauvaises attitudes. Avoir la foi, c'est avoir la pensée de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas avoir la pensée de Jésus-Christ si vous êtes continuellement en contact avec des gens qui n'ont pas la pensée de Jésus-Christ. La pensée de Jésus-Christ, elle est reproduite quand il y a une unité entre deux ou trois personnes ou plus qui ont cette pensée-là, qui s'unissent ensemble. Et si, par exemple, tu es uni avec une personne qui a la pensée de Christ, c'est-à-dire qui a la foi, avoir la foi, c'est avoir la pensée de Christ, avoir la foi, c'est penser comme Jésus. Si tu es uni avec une personne qui a la foi, alors vous êtes deux, et cette unité-là va créer une apparition, l'apparition d'une troisième pensée de foi. Ça se multiplie. Ça grandit. Je veux dire que ta foi, elle est toujours plus forte lorsque tu te trouves avec une personne ou plus qui croit droitement. Hein, tous mes enseignements ces derniers temps, c'est sur la foi droite. Il n'y a pas une foi biscornue. En ce moment, il y a trop de gens qui aiment afficher des pensées négatives, qui cultivent ça, qui, comme on dit en Suisse, rignatent de tout, qui critiquent tout, qui jugent tout, puis qui ont un humour malsain tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Ça devient une façon de penser, et ça ne doit pas être. On peut rigoler de temps en temps, je suis le premier moi-même à rigoler, mais il faut faire attention. Il faut fréquenter vraiment des gens de foi pour que notre foi soit entretenue. Pour ma part, je sais très bien ce que ça me coûterait si je fréquentais tout le temps cette sorte de personnes-là. Le mal ne tarderait pas à revenir dans ma vie. Ça commencerait déjà, pour un moment, je sais comment je suis fait, par un découragement. Ça commence comme ça. Je sais que j'ai la foi droite. Je sais que j'ai la foi droite. C'est cette foi droite qui suffisamment... Elle m'a été communiquée par Raphaël, ensuite par d'autres serviteurs de Dieu, comme Osborne. C'est celle-là qui m'a permis de pouvoir prendre ma guérison par la foi. Et puis ensuite, j'en ai suffisamment eu pour pouvoir la communiquer à d'autres personnes, à des milliers qui ont reçu, eux aussi, leur guérison un peu partout dans le monde. Je sais que j'ai la foi droite, parce qu'il y a un résultat. C'est pas une doctrine, c'est quelque chose qui se vit. Mais je sais que, dans les moments difficiles, dans mes moments d'isolement, quand il me semble que je suis seul, que je ne suis pas compris, qu'on me laisse tomber, eh bien, j'ai pas besoin de courir pour chercher du secours. Je sais où il est parce que c'est devenu une habitude pour moi de me nourrir de la parole de Dieu. Alors, je me tourne encore vers la parole de Dieu, vers le trésor le plus précieux qui soit au monde, ma Bible. La Bible. Il y a toujours une aide, il y a toujours un secours quand vous lisez les Saintes Écritures. Il y a toujours une aide, il y a toujours un secours à recevoir de la lecture et de la méditation de la parole de Dieu. Toujours. J'ai traversé des moments où j'avais plus de force, ou des moments où j'étais tellement découragé, dépourvu de courage. Alors évidemment, devant les gens, j'essaie toujours de faire bonne mine. Mais dans la communauté, vous savez comment c'est, on ne peut pas faire bonne mine 24 sur 24 éternellement, on est obligé d'être vrai, on est vrai. Alors vous qui vivez avec moi, vous savez comment ça se passe, hein. Il y a des moments où on est découragé, tout le monde. Et là, eh bien, je vais trouver à la source, c'est vers la source, là où je peux trouver le renouvellement de ma foi, c'est dans la Sainte Bible, toujours. Ou auprès de frères et de sœurs qui ont une foi qu'ils peuvent me communiquer. Tu sais, quand tu te sens écrasé par l'épreuve, le simple fait de toucher ta Bible, avec ta main, de toucher ta Bible, eh bien, ça peut t'apporter un tressaillement de joie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive. Par exemple, les moments où je suis raplapla, mais je dis, mais c'est pas possible, mais tout, le ciel est plombé, tout me tombe sur la tête, mais c'est pas possible. Je m'allonge sur mon lit, je prends ma Bible, je la pose comme ça sur ma poitrine, avec les deux mains croisées dessus, et je reste tranquille. Rien que ça, ça me fait du bien. Ça me donne des tressaillements de joie des fois. La Bible. Je reprends confiance. Même dans l'adversité, toujours, c'est grâce à la Bible. J'ai un savoir absolu, c'est que la Bible dit toujours la vérité. Les amis passent. Au suivant. Les amis passent. Au suivant. Les ennemis, eux, ils ne passent pas, ils s'accumulent. Mais la parole de Dieu, elle demeure toujours la même. Amen. Des fois, il semble que tout s'effondre. Des fois, tout s'effondre, c'est vrai. Mais la parole de Dieu, elle est indubitable. La parole de Dieu, elle est inébranlable. Elle est la vérité, on ne peut pas douter. Elle est l'encre de mon âme. Ça se coud des fois, mais l'encre est là. Ça peut pas aller, je ne peux pas m'écrouler, je ne peux pas m'effondrer, je suis bien accroché. Quand je suis là, fatigué, déçu de moi, déçu des autres, eh bien, j'aime lire. Par exemple, quand j'ai mal à la tête, je prends une aspirine. Je ne sais pas vous. Mais quand je suis fatigué, ce n'est pas une aspirine qu'il me faut, c'est Luc 10, 19. Luc 10, 19, c'est « Voici, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. » Ça, pour moi, c'est fou. L'aspirine, elle est effervescente. Moi, quand je dis ça, c'est moi qui deviens effervescent. C'est le verset qui me fait le plus de bien dans ces moments-là, quand je suis déçu de moi et déçu des autres. Quand je souffre dans mon corps, ça arrive. Quand je ne me sens pas bien, eh bien, j'ai une autre. Ce n'est pas l'aspirine non plus, ce n'est pas Luc 10, 19, c'est un autre. Je tourne les pages de ma Bible jusqu'à Luc 9, 56. Et je lis ce texte paisiblement, mais à haute voix, pour que je l'entende. Je le lis à haute voix pour que je l'entende, jusqu'à ce que les démons qui m'assaillent me lâchent. Ce texte, c'est « Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Alors, tout ce qui est susceptible de contribuer à ma perte, à ma destruction, comme la maladie, comme l'oppression mentale, comme toutes sortes de choses, la crainte, etc. Eh bien, je le sais de façon absolue, rien de tout cela ne peut me nuire. Vous voyez, je prends le bon remède adapté. Quand j'ai faim, je ne vais pas chez le garagiste, je vais chez le boulanger, m'acheter un morceau de pain ou quelque chose. Vous voyez ? Il faut toujours se donner le meilleur, ce qui est approprié à notre souffrance, à notre difficulté. Il est venu me sauver de cela. Il n'est pas venu pour me perdre, il est venu pour me sauver de cela. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je ne m'affole pas, je reste tranquille. Et puis, j'attends qu'il me sauve. Amen. Ce n'est pas plus compliqué. D'autres fois, je lis Jean 10, 10. Je ne vais pas vous le lire, vous irez le chercher chez vous. C'est un bon texte qui m'assure que le désir de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu veut pour moi, sa volonté à mon égard, c'est que je jouisse sainement et pleinement de toute la vie. Ça me donne une grande assurance. Il aime que je sois heureux. Dieu aime que vous soyez heureux. Dieu aime que vous soyez fort. Alors, je nourris mon âme avec ça. Pour que quand je suis faible, je trouve en cela la force. Ce n'est pas juste pour faire le religieux. Ce n'est pas juste pour me consoler. C'est pour recevoir ce dont j'ai besoin. Il y a des versets appropriés. Je ferme la porte à ce qui est moins élevé que cela. Par exemple, je ne vais pas lire le passage. Et le roi Schtroumpf-Buff-Bluff-Bloch fut infidèle et Dieu le détruisit dans les pires souffrances. Non, je ne vais pas lire ça. Vous comprenez? Ah. Parfois, quand nous avons des problèmes d'argent, et ça arrive à tout le monde, qu'est-ce que je fais? Je ne réagis pas comme tout le monde. Les problèmes d'argent arrivent à tout le monde, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Moi, je m'offre la meilleure nourriture quand j'ai des problèmes d'argent. C'est-à-dire Philippiens 4.19. Philippiens 4.19, c'est « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire par Jésus-Christ. » Selon la richesse de Dieu. Et vous savez, quand vous allez vers Dieu lui demander de l'aide, il ne vous dit pas « J'aime pas ce qu'il demande. » Il ne vous dit pas, « Ah ben non, en ce moment, tu tombes mal parce que là, j'ai plus. » Non, non. Sa richesse est infinie. Et puis, il donne avec gloire, avec majesté, avec joie. Il donne... Ah, c'est vrai, par Jésus-Christ. Alors, par exemple, quand j'ai appris, ça va faire un an maintenant, hein, dans 19 jours, ça va faire déjà un an que j'ai été opéré à cœur ouvert. Mais quand j'ai appris que je devais être opéré, j'ai écrit ça à un de mes amis et il m'a répondu, c'est ce qu'il m'a répondu, il m'a dit, « Tu vas t'en sortir, t'as encore pas fini de nous emmerder. » Oui, dans sa bouche, c'était de l'affection. Je le savais très bien, c'était pour, c'était de l'affection. Mes frères et sœurs, il y a des moments où on a besoin de plus que de l'affection rigolote. On a besoin de plus que de ça. J'avais besoin, pour satisfaire mon âme, d'une parole vivante, d'une parole de Dieu. C'est bien ma faute, j'avais pas besoin d'aller la chercher ailleurs. J'avais qu'à aller la chercher directement vers la parole de Dieu. Bien sûr, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Il me fait tellement rire. Mais quand même. Alors j'ai lu et j'ai relu Matthieu 8. Vous verrez, Matthieu 8, c'est là où il raconte la guérison du lépreux, la guérison du serviteur du centenier, la guérison de la belle-mère de Pierre, je crois. Puis ça finit par la tempête calmée. Et moi, ça calme mes tempêtes de lire des histoires comme ça. Ça donne à mes cellules une bonne information. Et je suis parti prêcher l'Évangile en sachant que je devais me faire opérer en revenant. Et je relisais encore dernièrement mes notes de mission, et je voyais que pendant ce temps-là où je suis parti, entre le moment où j'ai appris que je devais être opéré à cœur ouvert et le moment où je me suis fait opérer, j'ai fait une mission qui a duré quelques semaines, et il y a eu 60 personnes qui sont venues témoigner de leur guérison miraculeuse. Amen. Voilà. Et moi, j'étais opéré. Mais j'allais, le cœur tranquille. Le cœur tranquille. Ces choses-là, ces paroles-là, elles calment les tempêtes. Parce que j'ai moi-même aussi des tempêtes intérieures. Des fois, c'est tellement forte que ça sort même à l'extérieur. Hein? Vous me connaissez bien. Cette semaine, par exemple, j'ai reçu une brochure qui est envoyée aux anciens étudiants de Nogent-sur-Marne, de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Donc, vous ne risquez pas de le recevoir si vous n'avez pas fait les études là-bas. Mais moi, je les ai fait là-bas. Donc, je reçois régulièrement ce journal. Et là-dedans, il y a un article qui m'a beaucoup attristé. Et je voudrais vous dire, certains disent que je suis dur à l'égard des églises évangéliques et de ceci et de cela, et que je critique et que je suis... C'est pas vrai, mes frères et sœurs. Vous pouvez penser que c'est comme ça, mais c'est pas vrai. La réalité, c'est que je vois clair et que c'est une souffrance pour moi. Je vais vous lire quelques passages de cet article. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il est trop long, mais je le poserai ensuite sur la cheminée dans le salon et vous lirez, ceux qui ont du courage, parce qu'il y en a pas mal. C'est un frère qui se nomme Étienne Lemerneau, qui a écrit ça. Il a été lui-même aussi étudiant à l'Institut biblique de Nogent. Et vous allez voir, il parle au sujet surtout des pasteurs. Mais ce qu'il dit au sujet des pasteurs, vous allez le voir après, je vais développer cela, on peut le dire à notre propre sujet aussi. Je vous lis quelques passages que j'ai soulignés. Voilà ce qu'il dit. Je me souviens d'avoir été angoissé dans les premières années de mon ministère d'entendre des nouvelles négatives de camarades avec qui j'avais partagé les mêmes bancs d'école biblique et les mêmes rêves d'un ministère engagé et fructueux. Un tel s'était retiré pour essayer de sauver son couple. Tel autre avait abandonné sa femme pour se mettre avec un homme et avait quitté l'organisme où il servait Dieu. Tel autre avait fait une sévère dépression au point d'être hospitalisé et semblait avoir du mal à s'en remettre. Tel autre encore avait baissé les bras après quelques années d'un engagement important et apparemment sans histoire. Cette série noire correspondait à la douloureuse prise de conscience de mes propres limites et me faisait redouter que je ne sois le prochain sur la liste des combattants défaits ou démolis. Terrible, hein? Ce sont des hommes qui ont étudié là où moi-même j'ai étudié. Je vous lis un autre passage. Mes responsabilités au sein de la Fédération des Églises évangéliques baptistes m'ont conduit à être témoin d'un grand nombre d'abandons temporaires ou définitifs du ministère pastoral pour des raisons diverses. Et les relations entretenues assez largement avec le monde évangélique m'ont convaincu qu'il ne s'agissait pas d'une difficulté spécifiquement baptiste. Trop de collègues défaits par une chute morale, démis par une communauté intraitable, délaissés par une épouse insatisfaite ou plus simplement démolis par une charge écrasante, jettent l'éponge pour que nous n'imaginions pas des actions en vue d'inverser cette tendance. Je vous lis un autre passage encore. Il parle d'être vigilant, il parle de la lettre que Paul écrit à Timothée où il lui dit d'être vigilant, il lui dit « Cette vigilance doit s'exercer non pas d'abord sur la communauté que Timothée conduit, mais sur sa propre vie et sur son propre ministère. » Parce que le pasteur, il s'occupe toujours, il est vigilant pour les autres et puis il s'oublie lui-même. Hein? puis il n'est pas vigilant, puis pouf, voilà. Nous devrions toujours nous souvenir que Dieu ne nous a pas appelés parce que nous étions meilleurs que les autres ou parce qu'il avait besoin de nous, comme si le Tout-Puissant pouvait dépendre de nos faibles moyens, mais bien parce qu'il nous aime et qu'il veut nous faire grandir en nous utilisant à son service. Nous ne devons pas non plus oublier cette vérité dans notre processus de recrutement et de formation de responsables d'église, pasteurs et anciens. Il ne suffit pas de trouver des gens compétents et disponibles pour faire de bons responsables. Encore faut-il qu'une véritable conviction se forme dans le cœur de celui qui est invité à servir. Selon mon expérience, seule une vocation claire et ferme permet de tenir dans les moments difficiles. L'enseignement doit faire l'objet d'une vigilance particulière. Pourquoi cet aspect précis du ministère? Je n'aurai pas besoin d'une grande démonstration pour vous convaincre, parce que nous avons été nous-mêmes régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu et que cette parole est utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, c'est ce qu'on vient de lire. Nous ne serions donc majorer l'importance de cet aspect du ministère qu'à l'instar des apôtres, il ne convient pas de délaisser pour servir aux tables. Paul a besoin de répéter à Timothée combien il doit veiller sur son enseignement en lui disant par exemple de s'appliquer à la lecture publique des Écritures, à la prédication, à l'enseignement. Timothée 4, 13. Je reste pour ma part préoccupé par le peu de temps que consacrent bien des collègues, pasteurs, à cet aspect du ministère. L'absence d'études bibliques régulières, le peu de lecture de la Bible au cours des cultes et de fréquentes prédications bâclées me conduisent à m'interroger sur la part réelle qui est donnée à l'Écriture dans bien des églises malgré l'affirmation d'une identité fermement évangélique. Sans pouvoir complètement expliquer le lien entre délaissement de l'Écriture et démission du ministère, j'ai le sentiment qu'il y a là un ferment de découragement important dans bien des ministères. Je me demande si une explication possible ne tiendrait pas aux moyens d'employer pour accomplir le ministère, parce qu'ils ne savent plus très bien ce qui est attendu d'eux ou qu'ils ont soif de méthodes et d'expériences nouvelles. De nombreux collègues délaissent le moyen qui leur est confié pour conduire la communauté, l'enseignement de la parole de Dieu. Pour des disciplines intéressantes, mais forcément secondes, pour le pastorat, c'est-à-dire par exemple la relation d'aide ou le leadership. Ainsi d'hommes de la parole de Dieu qu'ils devraient être et pourquoi ils ont été formés pendant plusieurs années, ils s'improvisent thérapeutes ou animateurs avec pour tout bagage quelques journées de formation et deux ou trois lectures. À quelques exceptions près, les résultats étant inversement proportionnels aux espérances, la déception et la désillusion s'installent et avec elles le sentiment d'épuisement. À ceux qui sont découragés, comme je l'ai été à plus d'une reprise, je dis simplement, si le combat est rude, il est beau, selon d'autres traductions, il est bon, au regard de celui qui nous l'a confié et qui nous tient fermement en main. Alors ne perdons pas courage. Amen. Vous voyez dans quel état j'avais participé à une pastorale à Grenoble. Donc c'était que des pasteurs et leurs épouses qui étaient là. Et tout d'un coup, il y a eu une prophétie qui disait « Mon enfant, ne sors pas de cet endroit avant d'avoir parlé à mes serviteurs. Je sais que tu as décidé de mettre fin à tes jours. » Vous vous rendez compte à quel point ils en sont. Veillez sur soi-même. C'est des pasteurs. Veillez sur soi-même, prendre soin de vous-même, prendre soin de nourrir votre âme avec les Saintes Écritures. Le faites-vous. Pas seulement avec les prédications, ça ne suffit pas. Chacun de vous doit se mettre vraiment en ordre avec cela. Vous devez mettre de l'ordre dans votre vie au sujet de cela. Lire la Bible, l'avoir toujours à portée de la main, ça va vous aider à penser droitement, ça va vous aider à vivre droitement, ça va vous aider à croire droitement. L'avoir toujours là. Quand vous êtes à la chapelle, tenez-vous attentif. Vous savez, je vais inviter, peut-être d'ici quelques temps, je vais inviter de temps en temps un d'entre vous à venir s'asseoir ici pour qu'il voie un peu le spectacle que je vois. C'est assez déconcertant. C'est pourquoi je regarde très souvent, comme on me l'a enseigné à l'école de théologie, ne regarde jamais ton public, regarde toujours un petit peu en dessus, parce que sinon tu vas être complètement découragé de voir leur tronche. On nous enseigne ça. Quand vous êtes à la chapelle, rendez-vous attentif, appliquez-vous à écouter la prédication, réécoutez ensuite la prédication sur l'internet, Mon épouse, elle a trouvé un truc d'écouter, ça ne lui suffit pas. Elle prend des notes, elle écrit, elle prend toutes mes notes, elle les réécrit dans des cahiers. Elle a une pile comme ça de cahiers de toutes mes prédications depuis le début qu'on se connaît. Ça l'aide à retenir les choses. Et puis, enseignez vos enfants à se rendre attentifs. Ils sont avachis, ils dessinent, ils baillent, ils s'étirent, ils sont... Dites-leur de se rendre attentifs. Montrez-leur que c'est important pour eux. Donnez-leur l'amour de la parole de Dieu. Ne les irritez pas avec la parole de Dieu. Ne soyez pas comme le père de James Dean dans À l'Est d'Éden qui forçait son fils à lire la Bible. Et c'est affreux. Ce n'est pas ça que je vous dis. Demandez-leur, par exemple, ce qu'ils ont compris de la prédication, mais pas comme une interrogation d'école. Parce que n'oubliez pas quand même, la prédication, si vous voyez... Romains 10, 17, je vais le paraphraser. Romains 10, 17, ça dit « La foi née de la prédication et la prédication, elle est née de l'ordre donné par Jésus. » Donc, c'est quelque chose de sacré, la prédication. Ce n'est pas simplement Michel Janton, le baratineur qui vient puis qui vous dit des choses, qu'il a pensées, comme ça. Non, c'est inspiré par le Saint-Esprit. Croyez-le. D'ailleurs, on dit « Je vais écouter la parole de Dieu ». On dit ça comme une phrase, mais c'est une réalité. Vous devez écouter la parole de Dieu. Et puis rendre vos enfants attentifs à cela. Parce que toutes sortes de choses, ils entendent toutes sortes de choses. À l'école, à la récréation, un peu partout, sur Internet. Ils ont toutes sortes d'informations maintenant. Et puis ils entendent aussi ce que vous dites. Ce n'est pas toujours très positif. Mais qu'est-ce qu'ils entendent de la parole de Dieu? Prenez soin de ça. Bon. Je vous répète encore, ne les ennuyez pas avec la parole de Dieu. Ne faites pas, par exemple, « Bon, cette semaine, on va apprendre le chapitre 45 du... » Non, non, pas ça, s'il vous plaît. Faites-leur faire des expériences de foi. Quand ils ont un problème, dites « Eh bien, viens, on va prendre une parole de Dieu qui parle de ça et on va se mettre à genoux, on va prier. » Mon petit-fils, l'autre jour, il est venu vers moi, il m'a dit « le plus grand exaucement de prière que j'ai eu, c'est que mon petit frère est né. » Hein, parce que ça venait, c'était très difficile pour que son petit frère naisse, il y avait des graves problèmes, mais son petit frère est né, il m'a dit, c'est le plus grand sujet de prière où j'ai été exaucé. Anuka, tu m'as dit ça, il l'a répété encore plus souvent. Alors, c'est l'enseignement le plus précieux qu'ils peuvent recevoir de toute leur vie. Je sais qu'on a des professeurs parmi nous, je ne suis pas en train de minimiser ce que vous leur enseignez, mais ce que vous leur enseignez ne leur donne pas la vie éternelle. Ça leur donnera la vie pour la vie pratique et encore, pas toujours. Mais c'est le principal, l'enseignement principal, ce qui va leur donner le sentiment de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est honorable, et tout ça, c'est la parole de Dieu. Donc il faut les enseigner là-dessus. C'est le plus précieux qu'ils peuvent recevoir dans toute leur vie. Et quand ils ont passé l'âge de 7 ans, ça devient plus difficile encore de faire entrer en eux des convictions, des choses au sujet, des choses de l'esprit. Donc faites-le tout petit, vous qui avez des petits, commencez déjà, faites-leur comprendre. Mais si... vous ne vous donnez pas ce bien à vous-même, vous ne pourrez pas le donner aux autres. Vous ne pourrez pas le donner à vos enfants, parce qu'on peut donner que ce qu'on a. C'est pourquoi j'ai commencé ma prédication en disant « Veillez sur vous-même ». Moi, je veille sur moi-même avant de veiller sur vous. Lire la Bible, c'est entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement la comprendre, entendre dans le sens comprendre, mais c'est aussi l'entendre. La lisez-vous, eh bien, lisez-la à haute voix, entendez-la afin de l'entendre. C'est bon de l'entendre. La prédication, c'est la parole que vous entendez. Elle est dite pour que vous soyez aidés à croire. C'est nécessaire d'entendre. Dieu a voulu que ça soit par la folie de la prédication. Il y a une raison, parce que quand on entend la parole de Dieu, c'est important. La parole, c'est quelque chose qu'on entend. Pas seulement qu'on lit, c'est joli de lire, mais il faut entendre. Alors, quand vous lisez, lisez à haute voix, pour que vous puissiez croire jusqu'au point où vous allez pouvoir laisser libre cours à votre foi. Et beaucoup de gens croient et n'arrivent pas à laisser libre cours à leur foi parce qu'ils ne croient pas suffisamment, leur foi n'est pas vivante, c'est juste intellectuel, ils croient parce qu'ils ont lu un truc un jour. Entendre la parole de Dieu, elle te met dans une meilleure attitude d'esprit. Entendre la parole de Dieu te met dans une attitude de foi. Tu t'identifies au Fils de Dieu, il a dit ce que j'ai fait, vous pouvez le faire. Et beaucoup d'autres textes comme ça qui vous aident et qui vous font passer par-dessus les épreuves et les difficultés de la vie. Si tu l'écoutes, elle entre en toi, elle devient toi, elle est une nourriture. Ceux qui bouffent du McDo toute la journée, ils deviennent un Big Mac. Et ceux qui mangent la parole de Dieu, ils deviennent eux-mêmes la parole de Dieu. Elle va devenir ta force, ta lumière intérieure. mais encore faut-il que tu la lises et que tu la lises à haute voix. C'est cela dont j'ai besoin, c'est cela dont tu as besoin, c'est cela dont tes enfants ont le plus besoin. Prends ça pour toi, donne-le à tes enfants par l'enseignement et par l'exemple aussi, parce que si tu leur dis de faire comme ça puis que toi tu fais le contraire, ils vont vite voir, ils ne sont pas fous. Hein? Ouh, il va être très clair les enfants. Les églises, elles font faillite à cause de ça, mes frères et sœurs. Je l'ai déjà dit, mais je le répète encore, au risque de passer pour un critiqueur, ils chantent trop. Ils chantent trop. Dieu lui-même en a marre. Il voudrait parler, il ne peut pas, parce qu'ils sont en train de chanter. Ils n'écoutent pas ce que Dieu a à dire. En Afrique, et en France en particulier, dans les églises africaines, c'est plein de monde, mais c'est plein de monde fauché, qui n'ont pas les moyens d'aller dans les boîtes de nuit pour danser, alors ils viennent le dimanche matin et deux, trois fois dans la semaine pour aller danser à l'église. Pardon de dire ça, mais c'est vrai! Les Noirs, ils aiment danser comme ils sont fauchés. Ils ne peuvent pas aller en boîte, alors ils sont tout contents, on les fait danser à l'église, ça les fidélise. Mais ils dansent tellement pendant 2 heures, des gens qui chantent, des gens qui dansent, pendant et après, pendant la prédication, ils dorment. Mais ils ne dorment pas parce que le pasteur est soporifique, non. Ils dorment parce qu'ils sont épuisés d'avoir chanté et dansé pendant 2 heures. Mais c'est vrai, je vous dis ça, c'est vrai. Et si Jésus ne revient pas d'ici 10 ans, vous direz que j'avais raison. Pour le moment, vous ne pensez pas que j'ai raison, vous pensez juste que je critique. Non, je ne critique pas. En tant que prophète de Dieu, j'annonce, je dis, c'est comme ça. Tout ce que j'ai dit, c'était toujours 10 ans en avance. Et tous les gens ont critiqué tout le temps. Et maintenant, tout ce que j'ai dit qu'il fallait faire, ils commencent à le faire seulement 10 ans après. Mais c'est dommage parce que maintenant, les gens de maintenant, ils sont en train de... Et puis c'est surtout vos enfants dans 10 ans. Ils seront des adultes, vos enfants. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Vos enfants seront des adultes sans fondement biblique. Ils seront juste vaccinés avec la parole de Dieu. Ils auront été tous les dimanches au culte, bien sagement, merveilleux, et puis on leur met un petit peu de la parole de Dieu. Mais ça ne les nourrit pas, ça les vaccine contre la parole de Dieu. Mais c'est vrai ce que je vous dis. J'ai fréquenté des églises depuis 41 ans et j'ai vu tous ces pauvres mômes que les parents obligeaient à aller le dimanche matin et ensuite le dimanche après-midi et le samedi à la réunion des jeunes et le mercredi soir à la réunion de prière et tout le temps fourrés dans les réunions et ils étaient là morts comme des bouts de bois en train de se demander s'ils avaient eu des montres, ils auraient pu regarder quelle heure il était. Ils en avaient marre en train de se demander mais c'est quand que ça finit et maintenant ils sont où ? Tous dans le monde, ils ont tous abandonné parce qu'ils ont été vaccinés contre la parole de Dieu. Alors vous vivez la parole de Dieu avec eux. Vivez-la avec eux. Intéressez-les à votre vie, à votre façon de vaincre les difficultés de la vie par la parole de Dieu, avec ce remède, avec ce conseil, avec cette nourriture que sont les textes de la parole de Dieu. Il faut entrer dans la cause de Jésus. Dans sa grande cause, se mettre à faire, non pas simplement à écouter. Il faut écouter, mais après il faut se mettre à faire. Perdre ta vie, c'est ça que tu dois faire. Perdre ta vie pour la donner à Jésus. Perdre ta vie pour la donner à tes enfants. Perdre ta vie pour la donner aux autres. Et c'est seulement quand tu la perds comme ça que tu vas la trouver. Parce que tant que tu l'as perdue comme ça, tu ne la trouves pas. Les gens ne donnent rien. Ils ne trouvent pas. C'est pourquoi ils sont toujours à la recherche. Et beaucoup de chrétiens disent, j'ai trouvé le bonheur, ninani. Oui, oui, mais après que tu les vois dans la réelle vie, mais ce n'est pas vraiment le bonheur qu'ils ont trouvé. Ils ont adhéré à une forme d'idée, mais ce n'est pas pratique. Les pensées d'un disciple de Jésus doivent d'abord être pour les âmes des gens perdus, pour ces âmes que Jésus voudrait bien appeler à lui, mais qu'il ne peut pas appeler à lui parce qu'il n'y a personne qui va parler. Si vous ne prêchez pas, si vous ne témoignez pas, vous ne pouvez pas amener des gens à Jésus. Là, on a pris des contacts avec des imprimeurs, on va refaire, parce que maintenant l'oracle, on n'en a presque plus, on va refaire une brochure qu'on va pouvoir distribuer en masse, uniquement avec des témoignages de guérison et pour le salut. On ne sait pas s'il y aura, combien il y aura de pages, mais ce sera en couleur, ce sera très bien fait et tout. Envoyez vos dons pour cela. Rentrez là-dedans. Et puis ensuite, chaque jour, quand vous partirez, allez-y avec ces brochures pour évangéliser, pour témoigner, pour entrer dans la cause de Jésus. La cause de Jésus, c'est ça. C'est que les âmes perdues puissent être sauvées. Ayez les yeux fixés sur Jésus. On chante ça, hein. Comment on le chante? On dit... vers Jésus, lève les yeux. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire vers ce qu'il veut. Regarde-le pour savoir qu'est-ce qu'il veut. Hein? Eh bien, ce qu'il veut, c'est le salut des gens. Il est venu pour ça. Il n'est même pas venu pour la guérison. La guérison, c'est sa pub. Bien sûr, il veut aussi bénir les gens qui sont malades, parce qu'il aime les malades et il veut les guérir. Mais c'est surtout parce qu'il veut les sauver. Parce que le salut, c'est pour l'éternité. Un jour, j'ai prié pour une personne qui s'appelait Rosa, qui habitait aux Andelys. Une dame âgée, très forte, et qui avait de l'arthrose. Et elle ne pouvait plus se coiffer, alors elle était obligée de couper ses cheveux. Et comme elle avait la conviction qu'une femme ne doit pas couper ses cheveux, elle était très malheureuse, elle était reprise dans sa conscience. Mais elle ne pouvait pas se coiffer à cause de l'arthrose qu'elle avait dans les deux épaules. Et puis je suis invité par deux pasteurs, ils s'appelaient Roland Burki. Maintenant c'est plus lui je crois. Et il m'invite et je prêche là-bas. Et je prie pour cette femme, elle était complètement guérie de son arthrose, elle pouvait lever les bras. Il y avait un frère qui était là, il a pris une photo et je l'ai mis dans une brochure qu'on avait fait à l'époque qui s'appelait L'Unique. 3-4 ans plus tard, le pasteur Burki me téléphone, il me dit « Frère, il faut enlever », parce qu'on avait fait des milliers qu'on distribuait. Et il me dit « Frère, j'entends, il faut enlever le témoignage de la sœur Rosa de votre brochure ». Je dis « Mais comment ça, c'est pas possible ? » On les avait imprimés par milliers, je ne pouvais pas l'enlever. Je dis « Mais pourquoi elle est morte ?» Je dis « Oh, elle est morte, elle est partie vers le Seigneur ?»« Oui, alors ce témoignage ne vaut plus. » Je dis « Comment ça, il ne vaut plus ?» Ben non, je dis « Mais attendez, elle est morte de son arthrose aux épaules ?» Elle me dit « Non, 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 elle est morte de vieillesse. » Je dis « Mais attendez, je ne vois pas le problème. Dans la Bible, tous les gens qui ont été guéris sont morts. Là. Même Lazare qui est mort et ressuscité, il est remort après. Il faut arracher la page où c'est écrit qu'il est ressuscité alors. Parce que si quelqu'un demande « Mais alors où il est, Lazare ressuscité ?»« Ah ben il est remort. Ah ben c'est un contre-témoignage, alors il faut l'enlever. » Elle me dit « Ah ouais, t'as toujours raison, tu veux toujours avoir raison. » « Parfaitement, j'ai raison quand devant une bêtise pareille. » Vous voyez? Il faut le salut des gens. La guérison, votre guérison, ça ne va pas durer l'éternité. Un jour ou l'autre, de toute façon, vous allez mourir. Si Jésus ne revient pas pour vous enlever avec l'Église, vous allez mourir peut-être de votre maladie ou peut-être d'une autre ou d'un accident, que sais-je, ou simplement de vieillesse. Mais le salut, c'est pour l'éternité. C'est ça qui compte. C'est pour ça que Jésus est vraiment venu. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc, c'est ça le numéro un. À combien de personnes vous avez témoigné cette semaine? Voilà le secret pour être véritablement heureux. C'est rentrer dans un service fidèle en faisant la volonté de Dieu. Voilà mon frère, ma sœur. Alors il faut que tu te fasses un programme sérieux. Prie à ton autel. Déjà ça c'est une chose, je pense que tout le monde le fait maintenant dans la communauté. Vous avez tous votre autel de prière dans votre chambre. Priez à votre autel. Hein? Faites comme le prophète, je crois que c'était Daniel, qui priait en regardant, en se tournant du côté de Jérusalem. C'est une bonne chose, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la superstition, c'est simplement un ancrage pour votre foi. Ensuite, lisez la Bible, témoignez à l'extérieur, servez dans la communauté, soyez attentifs à l'enseignement. Faites-vous un programme. Inscrivez-vous certaines heures pour le faire dans la semaine. Certaines heures pour la prière, voilà, je ne fais pas la prière à n'importe quel moment, je ne fais pas ma lecture à n'importe quel moment. Si vous dites, oh, mais moi je suis assez grand pour décider si je la fais le matin ou l'après-midi et tout, je vous garantis, il va arriver un jour, vous dire, ah ben j'ai pas le temps aujourd'hui, tant pis, je ferai demain. Ça ne vous est pas déjà arrivé ça? Bien sûr, il faut être discipliné. Comme quand vous allez travailler, vous y allez à l'heure juste pour l'argent, pour l'argent. Hein? On le sait le faire ça, pour l'argent. D'aller au boulot à l'heure. Eh bien, c'est la même chose. C'est pire, c'est plus grave, c'est plus important d'être discipliné dans la lecture de la parole de Dieu. Chez nous, on mange à midi, heure fixe. Hein? Ben, on est là, hein? Sauf toujours certains qui sont toujours un peu en retard, même des fois moi. Donc, mais là, il faut être discipliné. Faites donc un programme. Et qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il fasse beau, n'importe quoi, tu vas témoigner de Jésus aux gens perdus. Aux heures que tu as fixées à l'avance. Fixe-toi des heures de la lecture de la Bible, des heures fixes. Fais pas ça au petit bonnet en la chance, le diable va toujours s'organiser pour t'obliger à faire des milliers de choses pour pas que tu aies le temps de lire la Bible. Il veut pas que tu la lises. Tu es un disciple, discipline-toi. Vous savez, dans les sectes, ils ont compris ça, les gourous. Ils ont compris que l'être humain est paresseux. Spirituellement. Alors, ils contraignent leurs adeptes à suivre des programmes chargés. Tout le monde dit, mais quelle horreur, mais quelle horreur. Alors, moi, je ne veux pas en venir là, mais n'empêche qu'ils ont raison. Étant donné que l'être humain, c'est une espèce de... C'est un paresseux spirituel, eh bien, pour avoir du résultat vrai, eh bien, on impose. Par exemple, les témoins de Jéhovah, ils sont obligés de donner tant d'heures pour aller témoigner aux portes, qu'il vente, qu'il pleuve, ils doivent y aller. Les mormons, les jeunes garçons mormons, ils doivent donner 2 ans de leur vie, fichent le camp de chez papa-maman, dans un pays étranger, pour aller témoigner, faire du porte-à-porte. Et il y en a beaucoup qui continuent à le faire après, parce qu'ils aiment. Et ils doivent vivre par la foi. C'est pas, les mormons ne les soutiennent pas. Ils font depuis tout petit, là, les tout petits, ils mettent de côté de l'argent pour pouvoir, quand ils seront plus grands, partir en mission en ayant payé eux-mêmes leur voyage, eux-mêmes leur nourriture pendant 2 ans. Vous voyez un petit peu la consécration? Ils sont obligés de le faire. C'est terrible, vous allez me dire. Mais n'empêche, c'est une église qui grandit. Je vais vous montrer un petit peu sur Internet les bâtiments qui se construisent et tout. Quand on voit les bâtiments des évangéliques qui sont toujours dans les arrière-cours ou dans les machins, les zones industrielles minables, vous allez voir, les mormons, c'est très organisé et c'est sublime, mais ils sont organisés. Alors, moi, je ne voudrais pas en arriver là. Je voudrais que ça vienne de votre cœur, que ça soit spontané dans votre cœur, que vous soyez des disciples. Je dois vous le dire, je le dois à Dieu et je vous le dois. Heureux le serviteur que le maître trouvera agissant ainsi lors de son retour. C'est écrit. C'est l'écriture inspirée par Dieu qui a fait de vous une nouvelle personne. C'est cette écriture-là qui est une semence incorruptible et c'est d'elle dont vous avez besoin pour continuer à vivre d'une manière incorruptible. Alors, pour vivre en tant que nouvelle créature, pour continuer à vivre, eh bien, nous avons besoin de nous instruire régulièrement. Je reprends simplement les textes qu'on a vus là. De vous convaincre régulièrement et de vous corriger régulièrement à l'écoute de cette parole de Dieu incorruptible. La parole est incorruptible, mais pas nous. Lire, écouter la parole incorruptible, c'est cela veiller sur soi-même. Et c'est ce qui sauve. Oh! On va faire un procès à Paul qui a écrit une fausse doctrine. Tu sauveras ton âme et celle de ceux qui t'écoutent. Alors, qu'est-ce que c'est qui sauve? De veiller sur soi-même? Ah, moi je crois que c'était le fait que Jésus est mort sur la croix, c'est ça qui me sauve? Oui, bien sûr que c'est ça qui me sauve. Mais pour continuer à être sauvé, eh bien, pour rester dans cet état de salut, veille sur toi-même, c'est ce qui te sauvera et c'est ce qui sauvera ceux qui t'écoutent. C'est ce que Paul dit. On ne peut pas en faire une doctrine, mais il l'a dit quand même. Le monde actuel, mes frères et sœurs, l'esprit de ce monde ne chôme pas. Il est très organisé et son but, c'est de nous perdre. Veillez donc sur vous-même. Ce qui purifie l'âme, Paul dit, c'est l'obéissance à la vérité. La vérité, elle est dans la parole, nulle part ailleurs. Veillons sur nous-mêmes. Veillons aussi les uns sur les autres. Ne faisons pas comme Caïn. Mais veillons les uns sur les autres. Nous sommes aussi les gardiens de nos frères et sœurs. Et en particulier, veillons sur nos enfants. Ne dites pas, oh, ils viennent au culte, oh, ils viennent le vendredi soir, oh, de toute façon, il y a Simone qui les instruit, ça ne suffit pas. Vous, en tant que parents, vous devez le faire. Ne pas veiller sur eux avec la parole de Dieu, ça revient à les tuer lentement, mais sûrement. Que la parole de Dieu soit portée dans vos cœurs, et apportez de votre main. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Elle soupire, c'est fini. Ah, vous avez entendu la gamine? C'est naturel. Pour eux, c'est difficile d'écouter une prédication. Mais quand c'est le papa, la maman qui fait faire des expériences, ça c'est beaucoup plus intéressant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus de bénir ces instants que nous avons passés, de permettre que cela soit dans nos cœurs et que nous prenions chacun nos responsabilités. Que ton nom soit béni Jésus. Merci mon Dieu de toucher aussi tous ceux qui écoutent Internet ou qui écoutent la radio. Merci Seigneur Jésus. Amen.